Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion.
Fréquence Évasion.
Fréquence Évasion.
Votre soirée télé sur les Seychen et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion.
Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.
Vous écoutez Fréquence Évasion, nous allons parler parapsychologie. Et pour ça aujourd'hui, eh bien, nous sommes en compagnie de Monsieur Ébrard, qui est responsable du Cercle Spirit de Liège en Belgique. Monsieur, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous redéfinir pour les personnes qui ne sont pas vraiment au courant ce qu'est le spiritisme et nous parler aussi d'Allan Kardec? Qui était Allan Kardec?
Alors Kardec, vous devriez le connaître mieux que nous-mêmes, puisque c'est un scientifique français du 19e siècle qui a fait de nombreuses études, des ouvrages aussi même dans le domaine de l'éducation, et qui a analysé de près les phénomènes spirites. Donc vers cette période 1850-1860, des phénomènes particuliers font leur apparition, tels que coups frappés dans les murs, tables qui bougent, et contact avec ce que l'on pensait être les esprits des désincarnés. Alors Kardec, lui, en tant que scientifique, a voulu aller voir ça de plus près et se rendre compte s'il s'agissait d'une superstition ou d'une force extérieure nouvelle à découvrir, vu que c'était l'époque aussi des découvertes du magnétisme, de l'hypnotisme et d'autres choses ainsi. Donc en tant que scientifique, il est allé voir, il a constaté que c'était bien une réalité, que si même dans certains cas il y avait de la supercherie et du jeu, dans d'autres cas il y avait bien une force qui se communiquait, et cette intelligence se dit être l'esprit de nos désincarnés, de nos parents, de nos amis. Donc.
Quelles ont été les pistes qui l'ont mis sur la voie? Quels ont été les indices qui ont fait qu'il a eu des preuves, justement, qu'il a été son cheminement et ses recherches?
Donc, il est venu très tard au spiritisme, puisqu'il est né en 1804 et il a abordé le spiritisme vers 1852 à peu près. C'est par un ami qui lui a dit, voilà, il y a ces choses-là qui se passent. Au départ, il n'y était pas particulièrement intéressé. Mais bon, à force d'assistance, il s'est dit, je vais quand même aller voir. C'est mon devoir en tant qu'homme de science d'assister à ces réunions et de constater s'il y a bien une réalité qui est derrière tout cela. Et c'est comme ça qu'il a démarré. Et donc, il a constaté qu'il y avait bien une réalité spirituelle qui se manifestait. Il a alors recueilli bon nombre, plusieurs milliers de messages reçus par différents médiums. Et il en a sorti donc le premier livre qu'il a intitulé « Le livre des esprits ». Pourquoi ? Parce que ce sont la réponse à plus de 1000 questions que le monde spirituel a données. Il est clair que dans tous les messages qu'il a analysés, il a reçu des informations qui étaient parfois contradictoires ou complètement aberrantes. Il n'a conservé que ce qui était, qui se recoupait, les informations qui se recoupaient, qui se confirmaient les unes les autres, d'une manière logique en tant qu'homme de science appliqué et méthodique.
Alors après le livre des esprits arrive le livre des médiums. Pourquoi un second livre ?
Je veux dire que le livre des esprits, c'est plus la partie théorique où là, il définit ce que sont les relations que nous avons entre le monde spirituel et le nôtre, que la plupart d'entre nous ne voient pas, mais qui agissent sur nous souvent à notre insu. Il donne aussi des informations assez concrètes sur la réincarnation, chose absolument extraordinaire pour l'époque où on parlait d'un seul Dieu, d'une seule terre habitée qui était le sort de l'univers. Donc, lui a donné toute une série d'informations scientifiques par rapport à cela. Mais à côté de cela, il s'est rendu compte des dangers et des différents types de médiumnité. Donc les médiumnités, ils sont très, très multiples et variés, et qui vont de la simple intuition que tout le monde a jusqu'à l'incorporation complète. Et donc il a décrit les différents types de médiumnité qui existaient, dont l'écriture aussi automatique, et il en a quand même attiré l'attention sur les dangers que cela peut représenter dans certains cas.
Alors justement, quelles sont ces différentes formes de médiumnité? Est-ce qu'Allan Kardec arrive, justement dans ses livres, à expliquer quelles sont ces formes, ces diverses façons de communiquer, ces diverses sensibilités pour arriver à entrer avec le monde des esprits?
Non, il fait plutôt une description détaillée des différentes formes qu'il y a. Donc c'est vraiment le tout début, et lui constate des choses, les étudie, les examine, il les décrit. Maintenant, d'un point de vue scientifique, ça sera confirmé par la suite. D'autres scientifiques, je veux dire français et européens et mondiaux, l'ont suivi et ont, eux, détaillé plus spécifiquement ces informations. Et on l'a vu ici aujourd'hui dans le congrès de médecins spirites que nous vont faire ici à Paris, que grâce aux recherches récentes, on s'aperçoit que l'interface se fait par la glande pinéale au niveau du cerveau, dans certains cas, ou parfois uniquement à partir du périsprit, que le langage moderne des scientifiques actuels appelle bio-organisme.
Alors justement, le professeur Melvin Morse a écrit un livre il y a quelque temps, La Divine Connexion, qui tente à prouver que la communication se fait par le lobe temporal droit. Qu'en pensez-vous ?
Là, on aborde plus le domaine médical. Je vais peut-être passer la parole à Marlène pour répondre à cette question.
Alors justement, ce lobe temporal droit, est-ce que c'est justement en accord avec le spiritisme ? Quel est votre avis là-dessus ?
Pour nous, médecins et spirites, le contact avec l'au-delà s'est fait à travers la glande pinéale. La glande pinéale ou épiphyse, c'est la glande de la médiumnité. C'est-à-dire qu'elle fait la liaison entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est-à-dire le monde spirituel et le corps humain. Parce qu'elle traduit la pensée ou les pensées des esprits à nous. Par ondes électromagnétiques, nous avons les messages des esprits. Elles sont codifiées dans cet état. Mais la glande pinéale nous fait décodifier ces ondes pour comprendre les messages. Nous avons des messages électromagnétiques qui se traduisent dans notre corps par composants chimiques.
Comment se fait-il que chez certaines personnes, le canal est ouvert et que chez certains autres sujets, il est complètement bloqué, fermé ? Comment on peut expliquer ça ?
Nous avons des médiums qui nous disons intensifs, qui nous disons médiums pour travailler la médiumnité. Il y a des gens comme des partout, des gens qui ont la médiumnité parce que c'est un don, c'est qualité des sensoperceptions parce que nous avons tous la glande pinéale et nous avons la possibilité de liaison avec l'au-delà. Mais il y a des médiums qui font la liaison plus intensivement que les autres. Monsieur le docteur Serge Philippe a expliqué que la glande pinéale des médiums ostensifs, ils ont beaucoup de cristaux de la glande pinéale. Dans ces cristaux, nous avons des apatites. Apatite, qui est un cristal qui existe dans la glande pinéale. Et les médiums qui sont ostensifs, ils ont beaucoup de cristaux. Et c'est pour ça qu'il y a des variations entre nous et les autres, ceux qui sont bien médiums et ceux qui sont un médium intermédiaire ou un peu de médiumnité seulement.
Alors on dit certaines fois qu'il y a des dangers de communiquer justement avec l'au-delà. Est-ce que ces dangers sont vraiment réels? Quels sont ces éventuels dangers et pourquoi?
Il y a des esprits qui sont mauvais ou plutôt j'aime considérer qu'il y en a des esprits qui sont qui ne sont pas esprits supérieurs. Mais nous sommes tous dans ce milieu-là. Il faut faire la liaison plus spirituelle possible. Mais pour nous, il y a un héritage d'autres vies. Et nous avons des mauvaises pensées, des mauvaises actions du passé. Et nous accompagnent les esprits qui sont liés à ces mauvais passés.
Quand vous parlez de ce passé, est-ce qu'il y a un moyen justement de sortir ces mauvaises pensées qui dateraient de vie, hein, par exemple antérieure ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à l'heure actuelle dans cette vie ?
Oui, Au Brésil, nous avons des séances appelées des obsessions. Nous avons dans des centres spirites, et nous avons 8000 centres spirites au Brésil, et nous avons des interventions du monde spirituel au monde matériel à travers les médiums. Les médiums agissent comme quelqu'un qui va promouvoir la santé du peuple. Et les médiums reçoivent l'esprit qui a besoin d'être suivi d'un cheminement dans le monde. Et les interveneurs qui sont des doctrinateurs, ici je ne sais pas le nom, mais qui élucident l'esprit. Ils montrent à les vrais chemins. Mais à petit, ils vont comprendre la lumière, les chemins à suivre. Mais ils ont besoin de parler avec lui. Ils ont besoin de recevoir la lumière. C'est pour ça que nous faisons les séances de désobsession. Mais quand les médecins voient qu'il y a une éclosion plus forte de la médiumnité, nous avons besoin de donner pilules pour que les processus de la médiumnité soient plus bénignes. Et elle peut être accompagnée d'une forme, d'une manière plus possible. Et c'est pour ça qu'après les médiums, s'il a besoin de développer la médiumnité, il va rencontrer une harmonisation, il va se récupérer dans la vie. Mais il faut toujours traiter.
Où en sont les recherches en médecine spirite aujourd'hui?
Nous avons plusieurs recherches en marche, parce que nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Mais petit à petit, parce que nous n'avons pas de l'argent, il faut toujours pour la recherche de l'argent et d'une université qui fait ça. Mais nous avons le chemin ouvert pour Monsieur Docteur Serge Felipe, qui fait les travaux de la pineale. Il y en a aussi d'autres dans mon pays qui font d'autres expériences avec les passes magnétiques, de l'eau fluidifiée, etc., etc. Des pensées, des guérisons, des prières pour les malades, etc. Mais nous sommes très, très dans le commencement. N'avons pas terminé ces recherches.
Alors pour terminer, est-ce que vous pourriez nous parler des guérisons spontanées? Comment cela s'explique?
C'est la même guérison que l'Évangile nous montre. Quand Jésus a récupéré, a guéri beaucoup de gens. Et il y a des gens qui ont guéri à partir de Jésus et d'autres qui on guérit à partir de sa foi elle-même. Et c'est pour ça que quand la femme hémorroïde, elle a eu la guérison, Jésus a dit à elle que la foi l'a sauvée, l'a récupérée, l'a guérie. C'est pour ça que si la guérison est spontanée, toujours il y a une intervention du fluide magnétique qui est l'ectoplasme qui fait la guérison en nous. Mais toujours on a besoin de la foi.
De nos jours, on parle beaucoup de physique quantique. Est-ce que c'est une notion qui vous est proche pour faire de la médecine justement spirite?
Oui, toujours. Parce que la physique quantique a ouvert un champ énorme, parce que dans la pensée nous avons des phénomènes qui sont quantiques et des phénomènes qui ont des rapports avec la physique newtonienne.
Juste avant de marquer une pause, est-ce que vous pourriez nous rappeler pour les auditeurs qui ne seraient pas très avertis ce qu'est la physique quantique ?
Quand nous parlons de l'esprit et des particules de la pensée, nous parlons de la physique quantique. Parce que l'esprit, la pensée surtout, est un produit de l'esprit. Et quand nous parlons de la pensée, nous parlons de particules très très petites qui obéissent à la loi quantique, à des quantas d'énergie. Et c'est pour ça qu'il existe un état entrelacé de la matière. C'est pour ça que je dis que dans le cerveau, nous avons des phénomènes quantiques qui, par rapport à l'esprit, il y en a des phénomènes de la physique newtonienne. Parce que nous avons le cerveau qui est dans la troisième dimension.
On marque une pause sur Fréquence Évasion. Nous parlons spiritisme, nous parlons de physique quantique. Eh bien, à tout de suite pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur.
Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com.
Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur.
Vous écoutez Fréquence Évasion, ce sont les dossiers de la parapsychologie, toujours en compagnie des responsables du Centre Spirit Belge. Et juste avant la pause, nous parlions de médecine spirit. Alors, que peut-on soigner avec la médecine spirit et quelle est l'importance justement de l'intervention des esprits ?
Nous avons la possibilité de comprendre l'intervention des esprits que vous avez souligné. Nous avons la possibilité de voir l'être humain avec une vision intégrale et les pouvoirs de l'esprit, surtout les pouvoirs de l'esprit, parce que la médecine contemporaine, elle voit seulement l'organisme physique, les corps physiques, mais pour nous ça va pas. On a les corps physiques et nous avons l'esprit et aussi les enveloppes subtiles qui font partie de l'expérience humaine, parce que l'esprit ne peut pas se communiquer avec la matière sans l'enveloppe subtile. C'est pour ça que la médecine spirit change tout. Parce que dans quelques phénomènes, nous avons besoin de chercher la base. Et la base, c'est l'esprit. Nous avons aussi la possibilité de réaliser beaucoup de recherches dans tous les domaines. Dans le domaine de la neuroscience, la pensée, dans le domaine des enveloppes subtiles, dans le domaine de la psychiatrie, parce que les états mauvais, les états de psychose, nous avons un autre regard des psychoses, des neuroses et d'autres questions, parce qu'il y a toujours la difficulté, les maladies de l'esprit et l'intervention des esprits sur nous. Mais il y en a toujours des correspondances parce que on ne peut pas analyser seulement comme un problème spirituel. Mais il y en a des problèmes physiques, biologiques, des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels. Toujours, c'est un ensemble. On ne peut pas dire ça et ça et après ça. Non, il faut comprendre l'être humain comme un tout. Nous sommes un tout. Et c'est pour ça que la médecine spirit, elle touche tous les champs de la médecine. Nous pouvons dire que tous les champs, c'est important pour nous.
Alors comment procède le médecin spirit pour soigner justement les personnes qui ont des problèmes divers et variés ?
Je pense que le médecin spirit, il travaille tout. Et il soigne comme tous les autres médecins avec les enseignements de l'université. Mais il y en a beaucoup de possibilités quand les malades disent non, je suis religieuse, ou je suis spirituelle, j'aime ma liaison avec le Père, le Créateur, etc. On va profiter de cela. Parce que la foi, c'est très important pour l'individu. Très important.
Il y a également le phénomène de la prière qui aide dans certains cas à guérir, puisque il paraît que quand on prie, on envoie des égrégores, donc des ondes, et ça facilite justement la guérison. Il y a 10% des personnes qui guérissent plus facilement quand ils ont prié par rapport aux autres. C'est une étude qui a été faite. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je peux recommander un livre très très, très important de monsieur docteur Harold Koenig, de l'université de Duke aux États-Unis, parce qu'il a fait The Handbook of Religion and Health. Et in this book, dans ce livre, il dit qu'on a fait des prières pour les malades qui étaient aux soins intensifs dans l'hôpital. Et ils ont fait beaucoup de prières, mais les malades ne savaient pas. Ils faisaient de prières. Et après, ils ont observé scientifiquement, par la recherche, que ceux qui reçoivent la prière, ils ont quitté l'hôpital avant que les autres. Ils vont quitter les soins intensifs plutôt que les autres, qui ne reçoit la même guérison spirituelle. C'est pour ça que les instituts de santé aux États-Unis sont très intéressés aux prières, parce que c'est une valeur économique, n'est-ce pas? Ils sortent de l'hôpital plutôt que les autres. Et pour la sécurité sociale, c'est très important, cela.
C'est vrai que ça va intéresser les lobbies pharmaceutiques. Alors, pour conclure avec vous, est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent en ce moment, qui découvrent peut-être aussi le spiritisme et la médecine spirite? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire pour qu'ils s'intéressent un peu plus près, justement, à cette médecine spirite, à ce spiritisme, à ces pratiques?
Je pense qu'il est très intéressant de lire les livres d'Allan Kardec, parce que nous avons comme priorité l'esprit. Les recherches que Kardec a faites dans ces champs-là, ce sont très, très importants. Et Charles Richer a reconnu l'effort d'Allan Kardec. Parce que si Allan Kardec ne faisait pas ça, les chercheurs ne s'occuperaient de ça. Et c'est très important de lire, même par curiosité, pour savoir qu'est-ce que le spiritisme dit à propos de la vie, de l'âme, de Dieu, de la réincarnation et tout cela. Parce que à partir de ça, vous pouvez modifier les significats de la vie. À partir de ça, vous connaisserez mieux à vous-même, à toi-même, à tes besoins. Et je recommande. Et je pense qu'à partir de cela, ceux qui soignent la santé des autres, elles peuvent recueillir des enseignements très, très importants. Non seulement pour ceux qui sont malades, mais aussi pour ceux qui soignent les malades.
Alors, pour en revenir au spiritisme, ce dont nous parlions au début avec Maria, les premiers contacts spirites, de quand datent-ils exactement?
Les premiers contacts observés n'ont pas été uniquement en Belgique, mais ont été, je veux dire, d'un niveau mondial. En réalité, ces phénomènes qui ont été analysés par Allan Kardec ont commencé d'abord aux États-Unis, à Idlesville, avec les sœurs Fox, et ça s'est répandu partout. C'est ça qui fait la richesse de l'enseignement spirit, c'est que ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais c'est l'œuvre d'une multitude d'esprits qui sont venus dire les mêmes choses à un même moment.
Alors au fil du temps, comment se sont passés ces contacts? Que nous ont-ils appris justement? Est-ce qu'on a eu des révélations, des enseignements particuliers? Est-ce qu'on est sûr que ce sont des esprits élevés qui sont en communication avec le médium? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des esprits du bas astral, comme on dit, qui viennent s'exprimer directement et qui vous donneraient des informations un peu erronées?
Le bas astral, de toute façon, est aussi histoire d'esprit. Hein. Maintenant, bon, comme je l'ai dit au départ, c'était des déplacements d'objets, de meubles, des bruits, des tables qui bougent. Et c'est vrai que quand Allan Kardec a analysé ça, il a pensé à simplement une nouvelle forme d'énergie. À partir du moment où cette forme d'énergie qui se communique dit être les esprits des désincarnés, à partir du moment où ils arrivent à donner des descriptions par rapport à leur vie, à partir du moment où par la suite on a eu des médiums qui ont pu travailler de manière d'écriture automatique ou de voyance et directement voir et décrire ce qu'ils voyaient, et même ça a été plus loin, on a été jusqu'à des séances de matérialisation en chambre noire où là les assistants ont pu constater de visu, même n'étant pas médium, ce qui apparaissait devant leurs yeux. Là c'est devenu des preuves irréfutables.
Alors ces esprits, que viennent-ils nous dire exactement? Est-ce qu'ils viennent quand on a des moments de difficulté? Est-ce que eux aussi sont peut-être en difficulté? Est-ce qu'ils ont des informations particulières à nous révéler? Que viennent-ils faire?
Oui, là c'est l'histoire de toute une philosophie. Il y a moyen de communiquer avec le monde spirituel de différentes manières. Il y a d'abord celui qui cherche, je veux dire, bêtement les jeux, le numéro du loto. Mais c'est pas du tout ça, ceux qui sont venus nous apprendre. Ils sont venus nous montrer que notre vie ne s'arrête pas après quelques décennies ici sur Terre, mais qu'elle est éternelle. Ils sont venus nous expliquer que nous avons la réincarnation qui est une des grandes lois et que l'on récolte toujours ce que l'on a semé dans cette vie-ci ou dans les suivantes. À partir de cet instant, on comprend mieux la dimension de notre être et le travail que l'on a à faire sur nous-mêmes de manière à s'améliorer et s'éviter toutes les souffrances que l'on récolte régulièrement.
Alors le spiritisme explique la réincarnation de quelle façon? Est-ce que c'est une roue infernale éternelle de réincarnation ou comme certaines traditions, ils prétendent que justement au bout de quelques réincarnations, on a terminé son passage sur Terre ou dans le monde physique? Comment le spiritisme voit la réincarnation?
Il y a d'autres notions, parce que dans le bouddhisme, je sais qu'il y a différents courants et certains courants croient la réincarnation, d'autres pas. Sont plutôt assez vagues par rapport à ce sujet. Ici, il est clair que dans l'enseignement que nous a donné, qui est pour nous toute logique, et tout qui étudie sérieusement la philosophie reconnaît que c'est une logique qui a raisonnement réfléchi, approfondi, que l'on est créé, entre guillemets, en tant que spiritualité simple, ignorante, et que c'est par notre travail constant et nos différents passages sur cette terre ou sur d'autres que l'on avance, que l'on progresse, et force est de constater encore de nos jours que c'est seules les périodes de souffrance et de douleur qui nous font que l'on se remet en question et que l'on progresse.
On parle des anges gardiens, il y en a qui les nomment les guides aussi, hein, les guides spirituels. Quel rôle ont-ils ces anges gardiens justement pour nous aider ici dans ce cheminement terrestre pendant toute une vie? Je suppose qu'ils sont auprès de nous.
Un rôle important et primordial, puisqu'ils sont toujours là, et je vais dire c'est quelque part notre conscience. Malheureusement, il y a tous ceux qui sont athées ou qui n'y croient pas, donc automatiquement ils n'écoutent pas la voix de leur conscience. Et à côté de cela, il y en a quand même quelques-uns qui ont compris que leur petite voix intérieure était un guide qui était là pour les aider, les protéger. Mais malgré cela, on n'est pas parfait. Et bon, malgré les conseils, dans certains cas, on n'aurait pas l'idée de ne pas faire cela parce que ça nous est insufflé, on le fait quand même parce qu'on a nos faiblesses humaines, mais ils ont un rôle constant de tous les jours. Et si on ne veut pas écouter la voix de notre conscience, donc de notre guide, automatiquement ils se retirent de nous et nous laissent trébucher. C'est comme un enfant, on est tous des enfants à l'école, et si on dit « touche pas à ça, c'est dangereux pour toi », et puis ben, on va le laisser faire jusqu'à ce que l'enfant se brûle et qu'il comprenne par lui-même que. Alors plus tard, bien plus tard, des années plus tard, il retourne vers les parents pour demander conseil, mais à un moment, il ne veut pas les comprendre. Et ben, c'est exactement la même chose.
Comment se passent les réunions dans les cercles Allan Kardec, notamment dans le vôtre? Que fait-on justement dans ces réunions?
Oui, il y a différents types de réunions. Hein. Bon, il y a des réunions comme celle-ci qui sont des réunions à caractère didactique et intellectuel, mais il y a des réunions aussi médiumniques qui sont là pour démontrer la survivance de l'être. Et il y a aussi des réunions plus spécifiques où on vient en aide à ceux qui sont de l'autre côté, qui sont morts et qui ne comprennent pas leur situation ou qui perturbent ou qui embêtent les vivants. Et donc on dit toujours, ne faites pas ça tout seul, chez vous, et encore moins à caractère ludique. parce que on est entouré de ce que l'on est et de ce que l'on recherche. Et donc il y a le bas astral, des esprits qui veulent parfois vous embêter. Et si vous n'êtes pas formé, expérimenté, et que vous êtes ça seul chez vous, bon, si c'est votre père, votre grand-mère qui vient, il ne va pas vous chercher des ennuis. Mais si vous attirez des entités qui sont là pour embêter les choses et que vous n'êtes pas bien encadré, vous n'allez pas pouvoir facilement vous en débarrasser. Et dans certains cas, ça peut mener à l'obsession.
Quel est le travail que vous effectuez dans ces réunions pour justement aider les esprits qui sont quelque peu perturbés ?
Donc dans les réunions plus spécifiques là, pour les esprits perturbés ou perturbateurs, ce sont des réunions qui sont donc faites dans un cadre précis, à jour et heure précise, parce qu'on demande l'assistance par la prière de nos guides, protecteurs spirituels. C'est ce qui fait qu'eux permettent à certains esprits, entre guillemets, que je vais appeler mauvais, mais qui ne le sont pas, ils sont simplement dans l'ignorance, de se communiquer. Dans les esprits qui sont de l'autre côté, il y en a qui sont simplement ignorants, mais il y en a qui sont très très mauvais, ce qui peut amener à des situations très 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 très, très graves que nous ne souhaitons pas. Et donc les guides font barrage, ils ne laissent venir à nous que ceux qui sont prêts à comprendre. Alors par un travail de moralisation, donc c'est une lecture qui leur décrit d'une manière générale où ils sont, ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent faire pour sortir de là et continuer leur route, on arrive à éclairer une bonne partie de ceux qui ont besoin d'aide. Mais dans certains cas spécifiques, alors, ils ont besoin d'un contact plus direct. Et grâce donc au médium incorporation, on a un contact direct où l'esprit se rentre dans le corps et on dialogue avec lui pour essayer de lui faire comprendre sa situation.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, nous donner un cas justement du travail qui a été fait sur un esprit justement perturbé ?
Disons que le travail qui est fait, donc toute réunion sérieuse se fait par des prières dans une ambiance de recueillement, avec une préparation d'une lecture quelconque à caractère spirituel, de façon à ce que chacun puisse s'extraire de sa journée de tous les jours. Il faut, lorsqu'on fait ce type de travail, sortir ses problèmes de casserole, de marmite ou de boulot. Hein, on doit se concentrer sur ce que l'on fait. Et par la suite, donc, il y a la moralisation et on reçoit un esprit. Je vais prendre un exemple qui est déjà arrivé à quelques reprises. C'est par exemple des jeunes qui sortent un samedi soir, ils boivent un peu trop, ils font un peu n'importe quoi, ils se prennent une pilasse, une voiture, et vu que l'amour est brutal, et en plus le lien, il faut savoir aussi que le lien entre la matière et l'esprit est d'autant plus important que l'on est jeune, par le fait que on est un peu comme une pile qui, si elle s'use de manière normale sans avoir accident maladie, va s'éteindre progressivement. C'est ce qu'on appelle l'amour douce. Et donc ces jeunes viennent complètement perturbés et on dialogue avec eux pour leur faire comprendre leur situation.
Il y a certaines personnes qui disent qu'on meurt quand on a fini notre chemin de vie, quand on a fini ce que l'on avait à faire sur Terre, alors on n'a plus rien à faire ici, on s'en va.
Ça c'est le cheminement tout à fait normal, mais si je prends un cas extrême pour expliquer qu'on peut modifier cela, la personne qui pour une raison ou pour une autre décide de se suicider parce qu'elle ne supporte plus le travail qu'elle a à faire, ou celui qui fait des excès, qui fait des cascades et qui se prend un mur, lui il interrompt le parcours normal de son existence, donc c'est aussi une forme de suicide indirect à conscience.
Alors on s'est aperçu en transcommunication instrumentale qu'il y a des personnes qui se sont suicidées, donc qui ont devancé l'appel et qui ont eu quelques perturbations. Donc est-ce qu'il y a un travail à exercer justement pour eux, pour les aider, ces personnes justement à passer, comme on disait tout à l'heure, le tunnel, à rentrer dans la lumière et être un petit peu plus serein?
Pas spécifiquement, en réalité, tout esprit qui vient dans une séance de moralisation vient pour différentes raisons. Ça peut être un suicidé, ça peut être une mort brutale, ça peut être quelqu'un qui obsède quelqu'un. Le travail le même, c'est lui faire prendre conscience de certaines choses et de lui expliquer, donc, dans le cas bien précis du suicidé, que ce qu'il a eu comme douleur sur la terre est un chemin qu'il avait choisi suite à ses expériences passées. Et dans ce cas précis, on demande à Dieu qu'il lui permette de voir pourquoi il a souffert. Et il voit se dérouler sa vie précédente et il se rend compte que ce qu'il a eu comme souffrance, c'est parce qu'il l'a fait subir à un autre. Donc que ça avait sa raison d'être. Et alors, grâce à ça, il va pouvoir reprendre les choses d'une meilleure façon dans la prochaine existence. le cycle normal, c'est quand on repart de l'autre côté, on revit son existence. Mais par exemple, ceux qui sont athées ou qui meurent de manière brusque sont plongés dans un genre de trouble, d'obscurité, où ils sont coupés de tout, où ils revivent continuellement les derniers instants de leur souffrance. Quand je prends l'exemple des jeunes, ils se voient dans leur voiture écrasés sur leur piquet, et ils ne sortent pas de cela. C'est un cinéma mental comme dans un rêve. Il faut arriver à justement dialoguer avec eux pour leur permettre de sortir de ce schéma mental.
Comment sont fédérés les cercles spirit ici en Belgique ?
La Belgique a un long passé spirit, puisqu'il a été fondé officiellement en 1925, si, au niveau de l'Union belge et de la Fédération liégeoise, mais on a des archives depuis 1874. Tous ces groupes-là ont malheureusement disparu suite aux deux guerres mondiales, l'arrivée du matérialisme, sauf les groupes de Liège qui sont restés. À côté de cela, dans le reste du pays, ça a disparu et progressivement depuis la reconstitution de l'Union belge. De nouveaux groupes sont formés et sont venus la rallier.
Alors comment fonctionnent ces groupes ? Comment se passent les échanges entre les diverses fédérations, spirit et les cercles Allan Kardec ?
Depuis la reconstitution de l'Union, ce que l'on a établi, c'est des groupes de travail. Donc, 4 fois par an, on se réunit à chaque fois à un endroit différent, dans un groupe différent, et on dialogue, on échange des idées, on prépare des organisations comme celle-ci, ou des symposiums, ou des congrès. Et ici, on a commencé une campagne de divulgation, puisque le problème est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont spirites et qui s'ignorent, beaucoup de personnes qui vivent des phénomènes mais qui ne savent pas les expliquer et qui ne trouvent pas où s'adresser par rapport à ce genre de choses. Parce que dans certains cas, c'est encore tabou. Ils ont peur d'en parler et ils sont frustrés de rester comme ça parfois des années.
Comment faire en sorte que les gens dépassent le stade de la peur et les faire sortir un petit peu de leur carcan et d'essayer de faire en sorte qu'ils réfléchissent par eux-mêmes ?
Une des pistes que l'on a choisies, c'est des conférences de divulgation où on vient présenter le spiritisme tel qu'il est. Et à partir de là, les personnes intéressées peuvent venir assister à des réunions. Les médias sont aussi un moyen intéressant, pour autant qu'ils ne recherchent pas certains buts qui ne sont pas du tout ceux que l'on poursuit. Mais c'est un travail, je vais dire, de fourmi, et le plus dur, c'est de démarrer toute cette inertie.
En guise de conclusion, eh bien, je vous propose de donner un message à nos auditeurs, aux auditeurs de Fréquence Évasion, afin qu'ils puissent justement sortir de ce carcan, venir peut-être assister à des conférences, à des réunions spirites, contacter le cercle spirit le plus proche de chez eux, afin d'avoir des informations justement sur ces pratiques, sur cette ouverture de l'esprit. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Moi, je leur dirais, pour toucher un maximum de personnes, que ceux qui sont intéressés, soit consultent via Internet les sortes spirites sérieux. S'ils tapent simplement Union Spirit Belge, ils vont tomber sur notre site, trouver toute une série d'informations et toute une série de liens avec nos amis au niveau international, puisque on est regroupé au niveau belge, mais on est aussi regroupé au niveau international. À partir de là, pour ceux qui n'ont pas Internet, je vais dire qu'ils prennent le livre de base d'Allan Kardec, les trois principaux qui sont donc, je veux dire, le livre des esprits qui a un caractère plus scientifique, le livre des médiums qui décrit les différentes médiumnités et ce qu'il faut faire ou pas faire, et l'évangile selon le spiritisme qui lui explique vraiment la morale du Christ et les paraboles à la lumière donc d'un nouveau vocabulaire.
Avant de nous séparer, vous allez nous rappeler les coordonnées de l'Union Spirit Belge afin que les auditeurs de Fréquence Évasion, s'ils sont intéressés, prennent contact avec vous et puis vous arrangez ensemble. Ils recevront les renseignements nécessaires par voie téléphonique ou par Internet.
Donc, ils peuvent nous contacter par mail à usb@skynet.be ou alors directement aller sur notre site https://user.skynet.be/usb ou alors par contact téléphonique au +32 pour la Belgique 4 227 60 76 ou 76 pour les Français.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir présenté si gentiment votre cercle et vos travaux. À très bientôt une autre fois sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir.
Merci, ce fut un plaisir.
Vous écoutez Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre dossier parapsychologie. À bientôt.
Fréquence Évasion.